Vous êtes sur RTL.
Merci Vincent, et oui c'est parti jusqu'à midi pour Allô, ici Bouvard. Je suis ravi de vous retrouver. Philippe, bonjour.
Et moi aussi, bonjour Isabelle, bonjour vous tous, et bonjour l'actualité. Même si elle n'est pas simple, et si parfois elle donne quelques soucis. Alors... D'accord, la décrue s'est produite comme c'était annoncé, mais pour autant, il subsiste des menaces d'inondation. Alors, inondation de réformes, et puis inondation de propos rassurants, et puis inondation d'impôts, inondation de taxes, et puis inondation de ces promesses dont le regretté Jacques Chirac disait qu'elles n'engagent que ceux qui les croient. Et puis... un tsunami qui est annoncé, un tsunami d'apparition présidentielle, parce que Emmanuel Macron, qui depuis 2 ans snobait les journalistes, s'est enfin avisé qu'il constituait le pont idéal entre la base et le sommet. Alors, bravo, bravo et merci, sauf que, vous le savez, aujourd'hui, les ponts sont de moins en moins solides.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Hong Kong pourra-t-il s'opposer durablement à Pékin ? Je vous rappelle quand même que Hong Kong, c'est 1100 km² avec une densité record, puisque on recense 47 000 habitants par km². Alors, pour faire le point, je vais appeler Jean-Philippe Béja, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, et nous allons ensemble regarder ce qu'il faut espérer après le scrutin du dimanche dernier. Bonjour, monsieur Béja.
Bonjour.
Alors, les pro-démocrates l'ont emporté haut la main.
Oui, c'est un raz-de-marée, véritablement. Alors, on s'y attendait un peu, mais disons que les élections ont confirmé ce qu'on pensait. Ils ont obtenu 57% des voix, et surtout 17 districts sur 18, alors qu'ils n'en détenaient aucun à la suite des élections principales précédentes. Mais le plus important, peut-être, c'est le fait qu'il y a eu une participation extrêmement élevée, la plus élevée dans l'histoire de Hong Kong, avec 71% de participants.
Alors, ça n'a pas empêché un ministre de Pékin de rappeler que Hong Kong faisait toujours partie de la Chine.
Mais d'ailleurs, ça n'a pas du tout été contesté dans les urnes.
Est-ce que ça peut déboucher sur les élections au suffrage universel qui constituent une des revendications des manifestants ?
Bah, écoutez, ce serait bien sûr tout le monde le souhaiterait, mais je crois que c'est extrêmement difficile parce que Pékin s'est prononcé très clairement contre le suffrage universel, ou plus exactement contre un véritable suffrage universel dès 2014. Il n'y a toujours pas eu de réponse véritable, de réaction véritable de la Chine ou même d'ailleurs du gouvernement de Hong Kong à ce raz-de-marée électoral.
Enfin, ça n'empêchera pas l'échéance de 2047, parce que je crois qu'à cette date, tout sera remis en cause, et surtout cette relative indépendance dont profite également Macao. Alors, relative indépendance, parce que s'il y a un gouvernement indépendant, il est quand même nommé par Pékin.
Ah non, il s'agit d'un haut degré d'autonomie, comme il est écrit dans la loi fondamentale, et pas du tout d'indépendance. La majorité reste aux mains des partisans de Pékin.
Alors, pour l'heure, les Hongkongais conservent leur système juridique, leurs frontières, leur monnaie, et même la circulation à gauche.
Absolument, oui, c'est quelque chose qui a été promis dans la déclaration conjointe sino-britannique, que pour 50 ans, Hong Kong conserverait son système. Alors, le problème qui se pose, en fait, aujourd'hui, c'est que, comme vous voyez, il y a beaucoup de jeunes dans la rue, c'est parce qu'ils s'inquiètent aussi de ce qui se passera après 2047. Et bien évidemment, ils tiennent à maintenir cette autonomie du système de Hong Kong. C'est pourquoi, chaque fois qu'il y a des immixtions de la Chine dans ce système, ça provoque de telles protestations, jamais vues dans l'histoire.
J'ai lu quelque part qu'il y avait un quart des 7 millions d'habitants qui manifestaient, que certains avaient le visage masqué, comme chez nous, mais que ça se passait beaucoup mieux, puisqu'il n'y a pas de bris de vitrine et il n'y a pas de pillage. Sauf qu'il y a eu un étudiant qui a été tué par un policier qui tirait à balles réelles.
Bon, disons que il y a eu des blessés par balle. L'étudiant qui a été tué, en fait, est tombé d'un parking. Mais il y a eu des bris de vitrine. On peut pas dire. C'est-à-dire qu'à partir du mois d'octobre, de la loi contre les masques, les plus radicaux ont brisé les vitrines des magasins pro-chinois ou des magasins appartenant à la Chine. Mais il n'y a effectivement jamais eu de pillage.
Alors, il faut quand même ajouter les blocages, le blocage de l'autoroute, le blocage de l'aéroport, le blocage du tunnel qui relie Hong Kong au continent. Ça fait beaucoup. Alors, aujourd'hui, Hong Kong, après le départ des Anglais, c'est toujours la troisième place boursière mondiale.
En tout cas, elle est essentielle pour la Chine, puisque c'est là qu'ont lieu la plupart des introductions en bourse d'entreprises chinoises. Donc, si les entreprises chinoises veulent ramasser des capitaux à l'étranger, il faut que, le plus souvent, elles passent par Hong Kong. C'est aussi à Hong Kong que l'on tente les expériences d'internationalisation de la monnaie chinoise, du yuan. Et puis, c'est aussi à Hong Kong que les membres de la nomenclatura mettent leur argent à l'abri. Donc, c'est quelque chose de très important, non seulement pour la Chine, mais aussi pour le Parti communiste chinois, en tout cas pour ses dirigeants les plus importants, qui ont des propriétés.
L'installation des multinationales et des milliardaires chinois a abouti à ce que l'immobilier de Hong Kong soit un des plus chers du monde. J'ai vu qu'une place de parking pouvait coûter jusqu'à 1 million de dollars hongkongais.
Effectivement, il est de plus en plus difficile pour les Hongkongais ordinaires de se loger, et ça crée énormément de frustration.
Oui, mais ce qui n'empêche pas d'ailleurs 20% de la population de vivre au-dessous du seuil de pauvreté.
Bah oui, il est extrêmement difficile de se loger. Vous avez des gens encore qui habitent dans ce qu'on appelle des cages, c'est-à-dire des toutes petites cellules fermées avec des portes en métal. Bien qu'ils travaillent, il n'y a pas de chômage à Hong Kong, tout le monde travaille, mais effectivement, le coût de la vie est de plus en plus élevé.
Vous confirmez, M. Béja, que depuis les conflits, la fréquentation touristique a diminué?
Oui, vous savez, l'essentiel des touristes qui se rendent à Hong Kong sont des gens qui viennent de Chine, hein, de l'autre côté de la frontière. Et la propagande de Pékin a été telle que les gens ont pris peur et que donc il y en a eu beaucoup moins. On a eu 40% de moins de touristes au cours des mois de protestation, en tout cas les derniers.
Enfin, la question de confiance pour en finir. Est-ce qu'on peut penser que 7 millions de Hongkongais pourront s'opposer durablement à 1,5 milliard de Chinois?
Écoutez, bien sûr, ils vont pas changer la Chine maintenant, mais en même temps, il est extrêmement difficile pour le gouvernement de Pékin de faire changer d'avis aux Hongkongais. On a vu que chaque fois qu'ils sont intervenus pour limiter l'autonomie de Hong Kong, il y a eu des réactions extrêmement vives. C'est très difficile de lutter contre une population qui est entièrement mobilisée.
Enfin, il y a l'appui de Donald Trump qui menace la Chine de sanctions économiques, mais on peut dire que l'Europe et les autres pays n'ont pas emboîté le pas à Trump, hein.
Effectivement, il n'y a pas eu d'énormes protestations, mais vous savez, les protestations, bon, il y a des protestations ouvertes, et puis il y a aussi les interventions. Si les multinationales quittaient Hong Kong, ce serait un coup terrible aussi pour l'économie chinoise. Donc effectivement, très peu de soutien international au mouvement de Hong Kong, mais évidemment, les États-Unis comptent énormément à la fois pour la Chine et pour Hong Kong. Donc la réaction du Congrès et de Trump est quand même un élément très important dans la prise de décision de Pékin.
Un grand merci, Monsieur Béja.
Je vous en prie.
Jusqu'à midi, allô, ici Bouvard sur RTL.
Pourquoi la France est-elle la championne des grèves? Et championne du monde, hein, s'il vous plaît. Oh, ben écoutez, c'est parce que généralement, il y a deux principales raisons qui aboutissent à une grève. Il y a la demande d'augmentation et puis il y a la demande d'annulation d'une réforme qui invariablement déplaît à tout le monde. Alors, un petit rappel quand même. Entre 2007 et 2016, il y a eu 123 jours de grève en France, alors qu'au Danemark, il n'y en avait que 118, au Royaume-Uni, 54, en Allemagne, 7, et en Suisse, une journée seulement. Alors, la première grande grève a eu lieu en 1906. Et alors, pour une raison qui va peut-être vous faire sourire, il s'agissait d'obtenir la réduction du temps de travail quotidien à 8 heures. Oui, on aspirait à la semaine de 40 heures. Il n'était pas encore question de la semaine de 35. Et puis, ensuite, il y a eu l'inscription du droit de grève en 1946 dans la Constitution. Il y a eu en 2000 l'inscription du même droit de grève sur la liste des fondamentaux européens. Et puis alors, c'est reparti sans arrêt avec les cheminots qui se sont adjugés depuis 1947 la palme des grèves. Alors, une palme des grèves qui a abouti, alors là aussi les chiffres donnent le vertige, à 8 millions de journées perdues. 8 millions de journées perdues, sachant qu'une seule journée perdue coûte 20 millions d'euros à la SNCF. Et puis alors ensuite, on a enchaîné. Il y a eu la première grève contre le retardement de l'âge de la retraite. C'était une grève très dure et la preuve, c'est que le projet a été retiré. Et puis il y a eu mai 68 avec une grève sauvage et notamment la grève des carburants qui a paralysé tout le pays. Mais les grévistes ont obtenu satisfaction. La preuve, c'est qu'aux accords de Grenelle, il a été décidé que le SMIC augmenterait pour la première et sans doute pour la dernière fois de 35%. Et puis, en 1995, trois semaines de grève. Alors, au début, Alain Juppé, puisque c'est lui qui est Premier ministre, est droit dans ses bottes. Et puis ensuite, il lève le pied. Et puis, la dernière grande manifestation de revendication a été contre la loi travail. Et puis, il y a un sujet tabou, c'est le paiement des jours de grève. En dépit de toutes mes recherches, je ne suis pas parvenu à établir si on avait ou pas organisé un jour une grève avec pour unique objectif le paiement des jours de grève.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Salut.
La reconnaissance faciale est-elle l'arme absolue contre l'insécurité ? Ah bah oui, il y a une chance, il y a même plus qu'une chance, il y a des tentatives. Alors bon, je vous rappelle qu'aujourd'hui, RF, ça signifie plus seulement République française, ça signifie reconnaissance faciale, c'est-à-dire c'est l'application logicielle de la reconnaissance d'une personne à partir de son visage. Et sachant que la comparaison s'effectue parfois avec 19 millions de visages quand il s'agit de la banque de données dont disposent les autorités françaises. Alors, il y a quelqu'un qui donne le bon exemple et je vais le saluer en lui demandant quel avenir il accorde à ce système. C'est Christian Estrosi, le maire de Nice. Bonjour, monsieur Estrosi.
Bonjour, Philippe Bouvard.
Vous avez donné l'exemple au dernier carnaval en recrutant 50 volontaires, puis en les mélangeant à 5000 touristes et en obtenant une reconnaissance à 100% qui a duré entre 1 et 20 secondes. Est-ce que vous êtes conscient que c'est un taux de réussite qui est exceptionnel ?
En tout cas, aujourd'hui, le numérique et l'intelligence artificielle permettent cela pour tous ceux qui s'en équiperont désormais, à condition, bien sûr, d'avoir l'autorisation de l'État, l'autorisation de ce qu'on appelle la CNIL, qui est l'organisme chargé de vérifier si les libertés individuelles sont respectées. Nous avons eu une seule autorisation d'expérimentation à l'occasion de l'événement que vous rappeliez, à savoir le dernier carnaval de Nice. Nous avons pu vérifier une chose, c'est qu'à plus de 300 mètres, avec 45 pixels et les dernières technologies dont nous disposons, dès lors que la fiche est dans le logiciel, sur une photo prise il y a 20 ans, en un quart de seconde, on identifie une personne dans une foule.
Alors, ce qui est prometteur, c'est qu'on va pouvoir reconnaître un terroriste au milieu d'une foule.
Si les autorités judiciaires et policières décident de mettre un fichier, par exemple les fichiers S de personnes qui sont radicalisées, à partir de là, tous ceux qui seraient détectés pourraient être immédiatement ou surveillés ou interpellés pour les empêcher de commettre l'irréparable. C'est un des moyens de lutter contre des actes terroristes, des attentats, de contrôler toute volonté d'actes barbares. Tout ça peut être étendu aussi à des fichiers de délinquants sexuels, mais ça peut être aussi un usage en matière de protection et de sécurité civile. Prenons l'exemple courant de personnes qui ont une maladie mémorielle, Parkinson surtout Alzheimer, et qui se retrouvent errantes dans la cité après avoir quitté un EHPAD par manque de surveillance. Eh bien, il suffit de mettre leurs photos dans le logiciel et en un centième de seconde, on les retrouve. Des parents qui perdent un enfant dans une foule, qui sont en panique et qui donnent à un policier la photo, en un centième de seconde, on retrouve cet enfant.
Est-ce qu'à l'échelle municipale, vous envisagez d'appliquer ce système au lycée, comme ça a déjà été fait? Et d'ailleurs, ça a créé la polémique parce que les associations ont déploré de ne pas avoir été consultées préalablement. Mais ça permet d'identifier les gens qui doivent avoir accès à un lycée et de refouler les autres.
Nous avons décidé, avec le président de la région, Renaud Muselier, de faire une expérimentation sur deux lycées professionnels, un à Nice et un à Marseille. Et c'était là de la comparaison faciale. Le conseil d'administration du lycée était favorable. Les élèves étaient volontaires. Les parents d'élèves ont donné leur autorisation. Il s'agissait, sous un portique, de comparer si l'individu qui pénétrait dans le lycée était bien celui qui était détenteur du badge d'autorisation à rentrer dans le lycée. Exactement comme lorsque vous franchissez une frontière internationale dans un aéroport et qu'on compare votre visage avec votre passeport. Rien d'autre. Eh bien, la CNIL s'y est opposée. Donc, je le dis aujourd'hui, cette institution poussiéreuse qui s'appuie sur une loi de 78, informatique et liberté, alors que nous sommes rentrés dans l'ère des réseaux sociaux où chacun avec son téléphone mobile, son smartphone, ses applications est sans doute beaucoup plus surveillé par Google ou je ne sais qui dans ses faits et gestes que la reconnaissance faciale ne le ferait. Ça suffit maintenant, il y a des digues qui doivent céder. Nous devons protéger les honnêtes citoyens des menaces auxquelles ils sont confrontés. Et je suis convaincu que nous allons avoir gain de cause assez rapidement.
Alors, une seule réserve, mais bon, elle ne tient pas devant les enjeux, bien sûr. Et est-ce que l'extension de la surveillance et de l'identification ne va pas aboutir à une extension de la suspicion?
Absolument pas, puisque tous les gens qui ne sont pas fichés, qui ne sont pas dans le logiciel, ne sont pas surveillés. Il n'y a aucun impact, il ne se passe rien.
Un grand bravo et un grand merci, Christian Estrosi.
Merci, cher Philippe Bouvard.
Jusqu'à midi, allô, ici Bouvard sur RTL.
Se marier est-il obligatoirement un luxe? Je réponds oui si on compare le mariage au Pacs, et je réponds non si on sait s'organiser. Alors, faut quand même rappeler que l'année dernière, il y a eu 235 000 couples qui se sont mariés. Et pour une dépense moyenne de 13 000 euros, dépense à laquelle c'est parfois ajouté un dépassement de 15%. Alors, s'organiser, c'est essayer de réduire les frais. Et pour ça, il y a quelques conseils de base. Bon, par exemple, se marier l'hiver plutôt que l'été, ça coûte moins cher. Par exemple, se marier à 150 km de Paris plutôt que dans la capitale, ça coûte moins cher. Par exemple, réserver longtemps à l'avance, ça coûte moins cher. Par exemple, opter pour un buffet debout plutôt que pour un déjeuner assis, ça coûte moins cher. nécessaire, surtout si on abaisse un peu le nombre des convives qui, encore, voilà quelques années, atteignait 120 à 90 seulement. Vous voyez, il y a une façon de s'en sortir. Alors, il y a aussi la tenue des unes et des autres. Pour madame, il y a une robe de demi-mesure plutôt qu'une robe de créateur. On peut s'en tirer à 900 euros, auquel on ajoutera 200 euros pour une paire de chaussures, mais sachant que la paire de chaussures, après la cérémonie, on pourra la teindre et s'en servir tous les jours. Et puis, pour le monsieur, alors monsieur, il a un complet bleu marine à deux boutons, il a une chemise blanche avec des poignets mousquetaires, il a une cravate de soie, et il a à la boutonnière une fleur naturelle. Ah, j'allais oublier, il a aussi un gilet, mais attention, pas un gilet jaune, un gilet assorti à son complet bleu marine. Enfin, il y a le mariage religieux. Il y a plus que 22% des couples qui passent par l'église et ils sont quatre fois plus à partir pour un voyage de noces, avec des forfaits raisonnables, mais des destinations lointaines qui peuvent aller jusqu'à l'Indonésie, jusqu'à Bali, jusqu'aux Seychelles. Le financement, ah ben écoutez, si les parents ne mettent pas la main à la poche, on peut toujours organiser une petite collecte auprès des amis. Et puis, il y a le contrat de mariage. Bon, facultatif. Mais enfin, pour 400 euros, on facilitera le divorce. Parce qu'il ne faut pas oublier que si l'amour ne dure pas très longtemps, l'argent, lui, peut poser des problèmes durant toute une vie.
Avec Volvo Car France, venez courir et faire un geste pour la planète. Le 8 décembre, participez au Volvo Plogging pour ramasser un maximum de déchets en courant. Une initiative Volvo Car France pour une mobilité plus propre. Inscription sur volvocars.fr.
Une nouvelle pour terminer. La cardiologie s'invite dans la grogne sociale. Ainsi, à la convergence des luttes succède la coagulation des colères. Oui, je dis bien la coagulation des colères. Oui, et sachant que l'anticoagulant se présente toujours sous la forme de milliards, généralement introuvables depuis qu'ils sont tombés dans le gouffre de la dette publique. À dimanche prochain!
Effectivement, Philippe, donc on vous retrouve dimanche 11h30 sur RTL.
Ah oui, toujours, toujours sur RTL et toujours vaillant, au moins je l'espère,
oui.
En dépit d'un anniversaire qui compte dans la vie d'un homme, ne serait-ce que parce que tout le monde ne l'atteint pas.
C'est ça.
J'aurai 90 ans.
Félicitations, Philippe.
Mais oui, mais
bravo.
Oui. Dont 53 ans d'RTL.
Faut le faire. Bravo. Dans un instant, le grand jury RTL Le Figaro LCI sera présenté par Benjamin Sportouche, qui aura pour invité aujourd'hui Gérard Larcher, président du Sénat. Vous écoutez RTL, il est midi.